Bon réveil à tous, voici le journal de Clara Lecoq-Réal. Bonjour Clara.
Bonjour Guillaume, bonjour à tous. Oubliez l'application Stop Covid, téléchargez maintenant Tous Anti-Covid. Voilà en substance ce que souhaiterait le gouvernement en lançant aujourd'hui la version 2 de cette plateforme. Peu de changements et beaucoup de regards vers nos voisins européens, vous l'entendrez.
Pendant ce temps, la pandémie rebondit nettement en Europe, en Pologne. 70% de la population est placée en zone rouge, vous l'entendrez.
En France aussi, le Covid-19 inquiète cet automne. Ce soir, de nouveaux départements seront placés en alerte maximale. Le gouvernement veut prolonger également l'état d'urgence sanitaire. Nous en verrons les limites.
Dans ce journal, nous reviendrons aussi sur l'hommage national rendu hier à la Sorbonne à Samuel Paty. Cet enseignant tué par un fanatique islamiste représentait la République, a dit Emmanuel Macron.
L'exécutif au défi de l'unité du pays, ce sera d'ailleurs le thème du billet politique de Frédéric Seitz dans un quart d'heure. Avant cela, nous irons en Pologne où le droit à l'avortement pourrait être aujourd'hui un peu plus restreint. Des voix s'élèvent contre le gouvernement, nous les entendrons. Va-t-elle susciter plus d'entrain que Stop Covid ? Une nouvelle application pour identifier les foyers de contamination est lancée aujourd'hui. C'est toujours le gouvernement qui la présente et qui la chapeaute. Il incite toujours les Français à la télécharger en espérant qu'ils soient plus nombreux que pour la première version. Mais son nom change, appelez-la désormais Tous Anti-Covid. Serait-ce, Laura Dulieu, une mutation en trompe-l'œil ?
C'est surtout un ravalement de façade que devrait subir l'application Stop Covid. Pour sa nouvelle version, Emmanuel Macron avait promis lors de sa dernière allocution une carte météo du virus, autrement dit un concentré d'informations locales sur l'épidémie, comme la circulation du virus ou les endroits où se faire tester selon les zones. Mais attention, pas de géolocalisation, ce sera à l'utilisateur d'indiquer manuellement l'endroit où il se trouve. Même chose pour le Bluetooth, il faudra l'activer manuellement avant de se rendre dans des zones d'affluence pour éviter d'épuiser sa batterie. C'était l'un des principaux reproches faits à l'ancienne version. L'idée d'un QR code à scanner en entrant dans un restaurant a aussi été avancée. Cela remplacerait les cahiers de rappel utilisés par les restaurateurs. L'application alerterait directement l'utilisateur s'il a été dans le même endroit qu'une personne testée positive. Pour l'aspect technique, pas de grande révolution non plus. C'est toujours le même code source qui devrait être utilisé pour tracer les contacts. L'application française ne sera toujours pas interconnectée avec celle des pays européens, contrairement à l'Allemagne, l'Irlande ou l'Italie. Au total, près de 20 pays européens pourraient rejoindre ce système selon la Commission européenne. L'Europe, où les applications contre la propagation de l'épidémie ont plus de succès qu'en France, l'Allemagne, par exemple, enregistre 18 millions de téléchargements, tandis qu'en France, Stop Covid a été installé moins de 3 millions de fois depuis le mois de juin.
Vous évoquez l'Allemagne, Laura Dulieu, allons justement outre-Rhin, où l'application a été saluée et téléchargée à son démarrage. Elle a depuis connu quelques loupés, Ludovic Piétenu.
Très populaire à son lancement, juste avant les vacances d'été, l'application CoronaVarn App, comprenait tout simplement application d'alerte au coronavirus, a séduit près d'un Allemand sur quatre. Disponible en quatre langues, l'allemand, l'anglais, le turc et l'arabe, elle a été téléchargée à ce jour par 20 millions d'utilisateurs, sauf qu'elle n'a plus été mise à jour depuis, entraînant plusieurs bugs. Erreur corrigée lundi dernier, qui lui permet d'éviter quelques bugs et d'être compatible avec 16 pays européens, sauf la France, occasionnant ici pas mal de critiques, regrette ce journal. Journaliste spécialiste informatique de la revue allemande Connect, Hannes Rügheimer. C'est parce que dès le début, nous n'avons pas choisi le même système, dit-il, la même architecture. Ici, on n'a pas voulu stocker les données sur un serveur central comme en France. Voilà pourquoi ça ne fonctionne pas. Autre souci, sur 10 personnes détectées positives, 4 oublient de le mentionner dans l'application, qui est aussi arrivée à un moment de reflux de la pandémie. Plusieurs ratés suffisants pour que le dirigeant du Land de Bavière qualifie cette application de tigre sans dents. Néanmoins, le gouvernement fédéral à Berlin n'a jamais caché qu'il ne faisait pas de cette application l'alpha et l'oméga de sa lutte contre le coronavirus, mais seulement un outil parmi d'autres.
Ludovic Piétenu depuis Berlin pour France Culture. Je précise que l'Allemagne a enregistré hier soir un bond soudain de contamination de Covid-19, passant en 24 heures de 7500 cas par jour à plus de 11 200. Une hausse qui touche d'ailleurs toute l'Europe et particulièrement l'Est du continent. L'Europe centrale et orientale a été plutôt épargnée par la première vague car les pays y avaient pris des mesures très tôt au printemps dernier. Mais ils n'avaient peut-être pas assez anticipé cette deuxième vague, Élise Delève.
Et c'est le manque de réaction des gouvernements qu'on pointe du doigt en Pologne et en République tchèque. Dans ces pays, on s'attend à une explosion des cas. En Pologne, 70% de la population est placée en zone rouge, plus de 9000 cas enregistrés chaque jour, chiffre qui pourrait doubler dans les prochaines semaines. 16 hôpitaux de campagne sont installés en ce moment en urgence. À Varsovie, il sera construit dans un stade de la ville et accueillera 500 lits. En République tchèque, les écoles, les restaurants, les bars, les musées sont fermés pour 3 semaines. Le pays est actuellement le plus touché d'Europe. Accusé d'avoir réagi trop tardivement, le gouvernement annonce une campagne de tests à grande échelle, tout comme en Slovaquie. Les autorités tchèques veulent tester la moitié de la population en 3 jours grâce aux tests antigéniques. Inquiétude aussi en Roumanie, 4000 cas par jour. Les zones les plus touchées sont reconfinées et les autorités nient un peu la réalité. Le Premier ministre affirme que les infections vont s'arrêter à la fin du mois. Il ne veut pas reporter les élections législatives prévues en décembre. Mais à l'heure où l'Europe durcit ses restrictions, un pays a décidé de faire l'inverse, la Hongrie, l'âge du lest. Pas de mesures particulières à part la fermeture des frontières, une façon de nourrir la propagande de Viktor Orban. Le problème, c'est l'étranger. Sauf que depuis que les frontières sont fermées, la Hongrie a enregistré le taux de mortalité le plus élevé d'Europe par million d'habitants.
Pas question de reconfinement en France ou même de fermeture des frontières, en tout cas pas à l'heure actuelle. Mais le gouvernement français envoie encore des signaux d'alerte, car la situation s'aggrave aussi dans le pays. En fin de journée, tout à l'heure, le Premier ministre Jean Castex doit donner la liste des départements qui vont basculer en alerte maximale. Le nombre de malades augmente, notamment à Clermont-Ferrand, Tours ou Strasbourg. Les territoires concernés ce soir seraient donc soumis à un couvre-feu et à la fermeture des bars dès ce week-end. Le gouvernement se base sur cela, sur l'état d'urgence sanitaire. Régime juridique exceptionnel que l'exécutif veut prolonger jusqu'au 16 février prochain. Une décision qui pose question pour Olivier Roucan, spécialiste du droit constitutionnel et enseignant-chercheur au CERSA. Il était hier soir l'invité du journal de 22h de France Culture.
Entre l'état d'urgence qui est lié au terrorisme après 2015 et puis la Covid-19 et l'état d'urgence sanitaire, on est sous un régime d'exception assez souvent. Ce régime d'exception, il se définit comment ? Par une restriction des libertés. Alors ça pose un vrai problème au regard de l'état de droit, au regard de la démocratie même. On a vu l'épisode des municipales et tous les bouleversements qu'il y a eu. On se pose la question pour les élections départementales et régionales à venir. Donc, il y a un vrai problème de fond, un débat à avoir. En plus, on voit dans l'opinion publique une partie des Français acceptent une restriction des libertés pour régler cette fois-ci donc la crise pandémique. Va-t-on vers une modification de notre culture démocratique? C'est une vraie question, un vrai problème, et le débat public là-dessus doit être tenu parce que c'est évidemment fondamental.
Pour débattre de cet état d'urgence prolongé, les députés siégeront ce week-end à l'Assemblée nationale. À l'Assemblée, hier, un amendement a été adopté, sachez-le, pour alléger les charges sociales patronales des viticulteurs en fonction de leurs pertes cette année. Ce secteur a été fortement impacté par la crise économique provoquée par l'épidémie de Covid-19 et par les taxes américaines.
8h08 sur France Culture, la suite du journal de Clara Lecoq-Réal. 5 suspects ont été incarcérés dans l'enquête sur la décapitation de Samuel Paty.
Ils ont passé la nuit en prison, accusés pour 4 d'entre eux de complicité d'assassinat terroriste. Sont notamment mis en examen le père d'une élève de Conflans-Sainte-Honorine et le militant islamiste Abdelhakim Sefrioui. Par ailleurs, 2 collégiens, également soupçonnés de complicité, ont été, eux, remis en liberté sous contrôle judiciaire hier soir. Quelques heures plus tôt, hier, le cercueil de Samuel Paty était applaudi pour son entrée dans la cour d'honneur de la Sorbonne à Paris. C'était l'hommage national, en présence de la famille, de l'enseignant, de nombreux élus et d'Emmanuel Macron, le chef de l'État. Une cérémonie suivie pour France Culture par Antoine Marette.
Moment tout d'abord étonnant et finalement émouvant et solennel quand le cercueil de Samuel Paty pénètre dans la cour d'honneur de la Sorbonne, porté par les gardes républicains et accompagné par le tube One de U2. Les lectures d'amis, d'enseignants, d'élèves se succèdent, les écrits de Jean Jaurès, d'Albert Camus et de Gauvin Serre. Emmanuel Macron prend ensuite la parole, pas de discours martial, le chef de l'État médite le souvenir de Samuel Paty.
Samuel Paty était de ces professeurs que l'on n'oublie pas, de ces passionnés capables de passer des nuits à apprendre l'histoire des religions pour mieux comprendre ses élèves, leurs croyances, de ces humbles qui se remettaient 1000 fois en question comme pour ce cours sur la liberté d'expression et la liberté de conscience qu'il préparait depuis juillet.
Ce cours qui a finalement coûté la vie à Samuel Paty et qui a fait de lui un martyr de la République vendredi dernier à la sortie du collège où il enseignait.
Samuel Paty fut tué parce qu'il incarnait la République qui renaît chaque jour dans les salles de classe, la liberté qui se transmet et se perpétue à l'école. Nous continuerons ce combat pour la liberté et pour la raison dont vous êtes désormais le visage.
C'est une Marseillaise sans parole qui suit le discours du chef de l'État, mais la foule présente à l'extérieur de la Sorbonne prend finalement la suite de l'orchestre à cordes de la garde républicaine.
Pendant ce temps, à Montpellier et à Toulouse, hier soir aussi, des caricatures de Charlie Hebdo étaient projetées sur des bâtiments officiels. C'est parce qu'il avait montré des caricatures du prophète Mahomet que Samuel Paty a été pris pour cible, puis assassiné vendredi dernier. Aujourd'hui, jeudi, le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, va lancer, et c'est un hasard du calendrier, un Grenelle de l'éducation entre protection et reconnaissance des professeurs. La décision est très attendue car elle pourrait faire basculer le droit à l'avortement en Pologne. La Cour constitutionnelle polonaise peut décider d'interdire ou non l'avortement en cas de malformation du fœtus. Cela s'ajouterait à des lois déjà très restrictives dans le pays, les plus dures d'Europe en la matière. La décision doit tomber aujourd'hui et ces derniers jours, des voix se sont élevées contre cette nouvelle tentative de restreindre ce droit à l'avortement. Sarah Bakaloglu les a rencontrées à Varsovie, elle nous raconte.
Devant le tribunal constitutionnel, Clémentina Souhanoff enfourche son vélo. Cette jeune Polonaise est venue défendre une fois de plus le droit à l'avortement dans un pays où presque la totalité du millier d'avortements légaux chaque année est effectuée en raison d'une malformation du fœtus.
Donc ça veut dire en fait que l'avortement sera dans les faits interdit en Pologne. Il y aura juste de rares exceptions en cas de viol ou de danger pour la vie de la femme. Vous serez obligé de donner naissance à des individus mourants ou souffrants.
En avril, le texte de loi est arrivé devant le Parlement avant d'être finalement renvoyé en commission. Mais ce jeudi, c'est devant le tribunal constitutionnel qu'il est examiné. Un choix qui n'est pas anodin pour Martha Lempart, leader du mouvement La Grève des Femmes, qui depuis plusieurs années s'oppose aux restrictions sur l'avortement.
Maintenant, ce sujet se retrouve devant le tribunal constitutionnel, ce qui est une décision stratégique, je pense, mais cela ne nous empêchera pas de manifester. Il y a toujours plus d'attention quand un texte est discuté au Parlement que dans une instance judiciaire. Nous sommes aussi là pour convaincre les gens que ce n'est pas un tribunal constitutionnel légal et que c'est à nous de décider si on accepte leur décision ou pas.
Car les L'association dénonce une institution contrôlée par le parti ultraconservateur Droit et Justice au pouvoir, dans un pays où les atteintes du gouvernement à l'indépendance judiciaire sont régulièrement pointées du doigt. Elle dénonce aussi la volonté du gouvernement de satisfaire les factions politiques les plus à droite.
C'était la correspondante de RFI et de France Culture, Sarah Bakaloglu, à Varsovie. C'est la première fois qu'un pape se positionne ainsi, si ouvertement. Le pape François soutient les unions civiles pour les couples homosexuels. Ce qu'il faut, c'est une loi. Ces personnes ont le droit d'être couvertes légalement. Voici ce qu'il affirme dans un documentaire présenté hier à la fête du cinéma à Rome. La fin peut-être d'une hypocrisie, analyse ce matin un spécialiste de la revue catholique française Golias. Partons enfin à Londres, où l'Opéra de Londres, en grande difficulté, a fait appel au peintre britannique David Hockney. À l'un de ses tableaux, plus précisément, le portrait d'un ancien directeur de Covent Garden sera mis aux enchères aujourd'hui par le musée. Il espère en tirer 20 millions d'euros pour renflouer ses caisses. Et le peintre a donné son accord, Richard Place.
David Hockney avait d'abord dit non. Il ne voulait pas peindre ce portrait, il ne connaissait pas le modèle. Il a rapidement changé d'avis et finalement fait ce tableau par amour de l'opéra. Il était loin d'imaginer que cette toile serait vendue 40 ans plus tard pour renflouer les caisses de Covent Garden. Le confinement du mois de mars, puis les restrictions qui ont suivi, ont un effet radical sur les finances du Royal Opera House. Les revenus sont réduits de moitié. Cette vente aux enchères aujourd'hui ne suffira pas à combler le déficit. Il y aura aussi un appel aux dons et une demande de prêt auprès du gouvernement. Des licenciements seront néanmoins inévitables, selon la direction. Le plus grand employeur artistique du Royaume-Uni symbolise bien les immenses difficultés du secteur culturel actuellement. Dans une semaine, l'opéra devrait à nouveau accueillir du public en nombre limité, en respectant des règles sanitaires drastiques. Si les taux d'infection n'augmentent pas d'ici là, contraignant le gouvernement à des restrictions plus rigoureuses encore.
On prend les mêmes et on recommence côté météo en France métropolitaine. Ce jeudi, le vent va souffler encore sensiblement avec toujours des averses éparses intercalées d'éclaircies. Ce matin, il fait 12 degrés à Rennes et à Dijon, 15 à Paris, à Tours et Bordeaux, 18 degrés à Lyon et à Perpignan.